Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour un.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Anna, 14 ans, a soigneusement préparé 4 petits bouts de scotch avant d'accrocher son nouveau poster de Billie Eilish. Du haut de ses 38 ans, Arnaud aime contempler l'étagère où il plie soigneusement chaque maillot de l'AS Saint-Etienne. Émilie n'a rien dit à ses parents, mais la fillette de 12 ans note chaque soir dans son carnet de petites histoires liées à son héros Harry Potter. André, 70 ans, adore s'endormir en regardant les deux lettres tatouées sur son poignet. JH pour Johnny Hallyday. À 40 ans, Jérémy ne rechigne jamais à faire un karaoké pour chanter encore les tubes de Céline Dion, pendant que Margot se dit que les cheveux crêpés façon The Cure, c'était quand même une mauvaise idée, même à 17 ans. Mais qu'est-ce qui nous pousse à admirer autant des stars de ciné, de la chanson ou des champions? Pourquoi des millions de gens se passionnent avec excès parfois pour la saga Harry Potter, Twilight ou pour les One Direction? Pourquoi depuis des siècles a-t-on besoin d'idoles? Et vous, avez-vous la fanatitude?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin pour évoquer les comportements de fans et ces idoles qui nous ont ou qui nous font encore vibrer. Bonjour Olivier Guèze.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous clamez tout votre amour pour le foot et quelques grands joueurs dans votre dernier livre, Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football, c'est édité chez l'Observatoire. Bonjour Léa Weinstein.
Bonjour.
Vous êtes autrice et créatrice du podcast Dalida et moi, c'est à écouter sur Arte Radio. Et notre troisième invité est à mes côtés, bonjour Grégoria Fusquillo. Grégorio, pourquoi je dis Grégoria? Grégorio Fusquillo, ben, ça commence mal.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes professeur associé en marketing et sociologie de la consommation à la Kedge Business School, c'est une école de commerce. Pour commencer, petite question un peu personnelle pour vous trois. Aviez-vous des posters d'une personnalité dans votre chambre d'adolescent? Olivier Guèze, je suppose que la réponse est oui, sauf si je n'ai rien compris à votre livre.
Je dirais pas que vous n'avez rien compris, en tout cas, j'avais Corto Maltese, mais ça c'est un personnage de fiction, mais pas, non, j'avais pas d'idole en chair et en os, plus ou moins, affichée sur mes murs.
Léa Weinstein, est-ce que vous aviez des posters dans votre chambre d'ado?
Alors oui, moi j'ai été ado pendant la période des boys bands, donc autant vous dire que ma chambre était tapissée, c'était la période des Worlds Apart, des Spice Girls, et j'étais très, oui, j'avais la fan attitude. Et alors, j'avais les posters dans ma chambre.
Et alors, est-ce que notre professeur avait des posters dans sa chambre aussi?
Non, pas vraiment.
Pas de posters?
Non, pas de posters.
Vous n'avez jamais été fan d'eux?
Non, j'ai juste actuellement une petite statuette de Monkey D. Luffy. C'est un personnage de la bande dessinée One Piece, c'est tout.
D'accord. Ah, One Piece, les fameux mangas, ouais. C'est ça, voilà, qui font fureur auprès des adolescents. Il y a beaucoup fans de One Piece. J'ai choisi volontairement de vous poser cette question sur l'adolescence parce qu'il y a, me semble-t-il, une différence entre être un ado fan et être un adulte fan. On a reçu un petit message d'une jeune auditrice de 13 ans, écoutez.
Bonjour, je m'appelle Marilyn et j'ai 13 ans. Et moi, je suis très fan de sport, surtout de surf et de foot. D'ailleurs, ma chambre est remplie de posters, de photos, de maillots, d'écharpes. Mes maillots, eux, sont de Gaëtan Timmy, car c'est ma chose préférée depuis toute petite. C'est mon idole. Et c'est ça, tous les jours, qui me fait sourire. C'est grâce à ça que j'ai le peps tous les jours, pour aller sur le terrain de foot, taper dans un ballon et m'entraîner.
Merci beaucoup Marilyn. Olivier Guèze, la fascination que vous avez pour le football par exemple et pour certains joueurs, est-ce qu'elle s'exprime aujourd'hui de la même façon que quand vous étiez ado, quand vous étiez enfant? Olivier? On a perdu Olivier Guèze. Grégory Fusquillo, c'est important cette différence entre être un fan ado et un fan adulte?
Oui, il y a une différence, mais je crois qu'il y a surtout une similitude, c'est-à-dire que l'origine de la fanatitude est toujours la même,
oui.
Puisqu'on sait le fait que la personne en question, elle traverse une crise identitaire. Or, à l'adolescence, la crise identitaire
est très forte, évidemment.
Très forte là pour tout le monde. Mais souvent, cette crise identitaire, surtout à cause du contexte actuel dans lequel on vit, donc des sociétés dites liquides, pleines d'incertitudes, on voit aussi que le phénomène, il est de plus en plus répandu auprès des adultes.
D'accord, donc il y a une logique en fait à tout ça. C'est pour vous, en tout cas, une sorte de crise identitaire qui justifie cette fanitude. On est d'accord pour dire que les fans existent depuis des décennies, pour pas dire des siècles.
Ouais.
Après, la société de consommation, évidemment, a sans doute modifié les comportements des stars. On est d'accord sur
Absolument, surtout à partir des années 80 et surtout aujourd'hui.
Léa Weinstein, pardon, j'ai un chat dans la gorge qui est arrivé, excusez-moi. Vous avez consacré un podcast à Dalida, vous n'étiez pas fan de l'artiste, vous la connaissiez à peine. Vous décidez pour un tas de raisons de vous intéresser à elle et voilà ce qui se passe.
Cela fait un an maintenant que je vis avec Dalida. Et je cherche toujours à comprendre ce qui chez elle me touche, au point que je passe mon temps libre à l'écouter. Mon portable est rempli de photos d'elle depuis que je suis le hashtag Dalida sur Instagram, qui est un mélange de portraits vintage magnifiques de la chanteuse et de photos de jeunes femmes, souvent marocaines, toutes plus belles les unes que les autres, et qui ont Dalida comme prénom. J'allume même mes cigarettes avec elle, puisque j'ai désormais un briquet à son effigie, avec, sur une face, Dalida en robe à paillettes fendue, sur l'autre face, écrit en doré, Dalida Forever.
Léa, vous êtes la preuve que l'on peut devenir fan d'une personne décédée, en fait.
Oui, c'est ça. En
plus, ça vous a intrigué ?
Il se trouve que Dalida est morte l'année de ma naissance, donc on ne peut pas faire une rencontre plus anachronique. Mais c'est vrai que c'est plutôt par le hasard que je me suis retrouvée à m'intéresser à elle. Et puis c'est au contact de différentes personnalités qui... Alors je ne sais pas si tous les personnages du podcast se définiraient eux-mêmes comme des fans, mais en tout cas ce sont des gens qui l'ont rencontrée et qui, à un moment donné, ont eu le sentiment qu'elle avait changé leur vie, vraiment. Donc on retrouve cette question peut-être de l'identité que vous évoquiez. Et c'est en les rencontrant chacun que petit à petit, j'ai eu l'impression que, comme ça, insensiblement, je me retrouvais à devenir comme eux, en fait.
Et pourquoi vous dites que certains ne se définissaient pas forcément comme fans ? Parce qu'ils ne le revendiquaient pas ou parce qu'ils n'avaient pas peut-être une passion aussi exacerbée que les personnes qui étaient à côté d'eux?
Bah, j'ai l'impression qu'on peut quand même distinguer, c'est-à-dire que il y a bon, je suis aussi allée à la rencontre des fans au sens qu'on entend quand on prononce ce mot. Donc je suis allée à la réunion du fan club, la réunion annuelle du fan club officiel de Dalida dans le 18e arrondissement de Paris, ou même dans certains cabarets, vous avez des soirées spéciales Dalida. Voilà, là, on rencontre en effet des fans, au sens où on l'entend, qui vont avoir tout l'accoutrement, qui vont avoir ce rapport très proche de l'obsession, qui vont connaître toutes ces chansons absolument par cœur, etc. Mais moi, je suis aussi allée à la rencontre de personnages. Comme il y a par exemple un psychanalyste dans le deuxième épisode.
Exactement, oui.
Ou un écrivain marocain qui lui a rencontré Dalida plutôt dans le côté femme arabe, en fait, diva arabe. Et puis elle a changé sa vie. Donc je pense pas qu'il se définirait comme un fan au sens des autres. Mais en tout cas, elle
s'est passé
dans
quelque
sa
chose,
vie,
c'est
il
ça.
Il s'est passé quelque chose et elle est restée. Donc il continue. À l'écouter et à avoir un...
Cette notion du temps, on va y revenir parce que dans les messages que nous avons reçus des auditeurs, justement, beaucoup nous disent « j'ai été fan et je le serai de toute façon jusqu'à la fin de mes jours, même si mon comportement change, évidemment, même si j'ai arrêté de collectionner des posters. » Olivier Guèze, est-ce que vous expliquez dans votre livre la dimension nostalgique qui anime votre passion pour le foot? On a l'impression que ça vous colle à la peau, justement, et que vous ne pourrez pas vous en défaire de cette passion. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un truc qu'on a en soi?
Je pense que c'est quelque chose qu'on développe très tôt, à l'enfance. En tout cas, moi, le foot, je suis tombé dedans vers 7-8 ans, comme la plupart des gamins qui découvrent. D'abord, qui commencent à jouer, et puis après, qui commencent à collectionner, puis commencent à s'intéresser aux différents championnats, aux grandes compétitions. Je m'en suis un peu éloigné, même si j'écris régulièrement des chaînes, et j'adore encore aller au stade. Et effectivement, il y a ce lien à l'enfance qui est très fort, mais qui se poursuit. C'est-à-dire que le point de départ, effectivement, c'est l'enfance, c'est notamment les grandes compétitions. compétition, la Coupe du Monde ou la Coupe qu'on vient de vivre, ça replonge quelque part dans cette atmosphère-là et ça rythme quelque part toutes nos existences, puisque c'est récurrent tous les deux ans. Vous avez une grande compétition de football, il est beaucoup plongé quelque part. Mais il n'y a pas que de la nostalgie, c'est quelque chose. À la différence, par exemple, d'une personnalité comme Dalida, dont on parle. Dalida a une existence, voilà, elle est décédée il y a un bout de temps maintenant, et donc quelque part elle ne se nourrit pas cette passion. Enfin, on peut toujours découvrir d'autres choses. Lorsqu'on a une passion comme le football, ou je ne sais pas moi, un acteur qu'on aurait découvert assez jeune, un acteur, c'est quelque chose qui vous accompagne. C'est un petit peu différent.
Oui, je pense que c'est Dalida, l'instant présent aussi.
Une dimension de nostalgie qui est beaucoup plus forte, par exemple, puisqu'elle incarne une époque, d'une certaine manière. Le football, en ce qui me concerne, je n'aime pas le football, mais en tout cas, le football est quelque chose qui, pour le coup, évolue avec vous, que vous aimiez ces évolutions ou pas.
Et en plus, avec une dimension, alors on parlait de la nostalgie, et puis une dimension familiale aussi, parce que vous alliez au stade avec votre père, donc c'est tout ça aussi qui ressort dans la passion et dans le fait d'être fan d'une discipline, en l'occurrence.
Je pense que c'est un rituel, la passion. Lorsqu'on aime le football et lorsque gamin on a commencé à découvrir le stade, c'est un rituel, c'est une forme de religiosité d'une certaine manière. Je veux dire, les gens qui chantent dans une église, dans une synagogue, dans une mosquée ou qui chantent dans un stade, au fond, quelque part, on retrouve un petit peu la même gestuelle, la même incantation d'une certaine manière, les mêmes prières. Certaines façons, en tout cas, il y a un lien entre les deux.
On va parler de la religion en fin d'émission, si vous le voulez bien, Olivier Guest, parce qu'on va parler des stars du football, Maradona en l'occurrence, mais il y a d'autres personnalités qui ont développé justement ce côté fan qui nous pousse parfois à être un peu sectaire. Justement, Gregorio Fusquillo, je vais y arriver finalement. Hein. On se moque parfois des fans, on les raille, on ironise un peu sur la façon qu'ils ont ou qu'elles ont de se coiffer comme leurs idoles, de se faire tatouer le nom de leur artiste. Mais en fait, il y a vraiment quelque chose de très corporel. C'est un peu le syndrome d'avoir quelqu'un dans la peau.
Oui, tout à fait. Cette idée qu'on se moque un peu des fans, c'était vrai, je dirais, jusqu'aux années 80-90. Et à partir de ce moment-là, le phénomène, il s'est de plus en plus déstigmatisé parce qu'il est devenu plus diffusé. Et c'est vrai qu'on a besoin d'être en contact, un fan, pour être tel, il a besoin d'être en contact avec son idole, tout simplement parce que pour construire son identité, après la crise qui l'a frappé, il a besoin de reconstituer son identité à travers trois formes de travail. Un travail qui est matériel, donc il a besoin d'entourer sa vie d'objets qui sont liés à l'idole.
D'où l'idée de collectionner, notamment.
Voilà. D'un travail qui est narratif, donc grâce à ça, il peut réécrire l'histoire de sa vie. Donc voilà, la nostalgie, le passé, le présent et l'avenir. Et puis, le travail matériel, le travail narratif lui permet aussi de mener un travail qui est social. C'est-à-dire, avoir quelque chose à raconter lui permet de nouer des nouvelles relations avec des gens qui ont la même passion.
Oui, l'esprit communautaire, on y reviendra quand on parlera peut-être de religion, mais cet esprit communautaire, le fait de se sentir appartenir à un groupe est extrêmement important dans l'explication du comportement des fans.
Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est fan, parce que lorsqu'on vit une crise identitaire, on se détache, on n'est plus en résonance avec le reste de l'humanité ou la société qui nous entoure. Donc, pour se reconnecter à l'humanité, on se lance dans ce parcours, dans cette fanatitude, donc pour reconstituer son identité et donc rentrer à nouveau en résonance avec le monde qui nous entoure.
Léa Vanchan, est-ce que c'est ce que vous avez ressenti quand vous étiez au contact des fans de Dalida, ce besoin aussi d'appartenir à une communauté?
Oui, certainement. Oui, il y a un effet de communauté, de réunion qui est très important, de rencontre, et qui justement, même si elle est plus là, je pense, participe de cette réactivation permanente. Ils se rencontrent, ils découvrent des nouvelles chansons, ils chantent ensemble aussi. Moi, j'ai assisté à des scènes incroyables de fans qui étaient très jeunes, hein, d'ailleurs, malgré, encore une fois, sa disparition déjà lointaine. Donc, il y a quelque chose de très vivant. Ça, c'est assez surprenant. Et qui passe, en effet, je pense, par cet effet de groupe, parce que la passion se vit certainement de façon un peu solitaire, quoi, dans la chambre, avec les posters, avec les chansons. Et donc, quand les fans se retrouvent, quelque chose d'assez intense qui se produit, ça, J'ai pu le voir, en effet, oui.
Alors, dans un instant, on va revenir sur la pluralité des fans et les degrés de fanitude. Mais vous savez que cette émission est la vôtre. Dites-nous si vous avez une âme de fan, qui sont vos idoles, jusqu'où vous êtes prêt ou prête à aller pour ces célébrités que vous chérissez. Pour cela, il y a le téléphone 01 45 24 7000. Vous pouvez également nous envoyer un mail ou une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton « Réagir » sur la page de l'émission « L'été comme jamais » via l'application ou le site.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie. Expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille. Épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. 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 Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
Le reste par Clara Luciani, qui répète souvent à quel point elle est fan de Françoise Hardy et de Stéphane Bern. Une admiration mutuelle. L'été comme jamais se poursuit sur France Inter avec nos trois invités. Alors cette émission a failli s'appeler 50 nuances de fans parce qu'on idolâtre des personnalités très diverses et de façon très différente. Le mix qui suit le prouve, il vous est offert par notre réalisatrice dont je suis fan, Juliette Medevielle.
Let's just have it completely silent for one second while I say... The Beatles.
Devant chez Claude François, vous l'attendez souvent?
Oui.
Toutes les semaines?
Oui, presque.
Ouais, aussi.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Il sait manipuler les gens, mais d'une façon formidable, vraiment. C'est les gens qui sont cons, mais c'est lui qui est merveilleux.
Quand Johnny est mort, j'ai été brisé.
Voilà, dans mon grenier, j'ai une collection de Johnny.
Une collection de quoi?
Je me suis noyé dans l'alcool.
Une collection consacrée à Johnny Hallyday, la plus importante du département, d'ailleurs. Et ce matin...
C'est ça?
J'avais perdu mon Dieu.
Je suis en train de vous parler de Johnny Hallyday, le plus grand chanteur français de tous les temps, là.
Désolé, je sais pas qui c'est.
Vous êtes là pour quoi?
Pour Mariah Carey, évidemment.
I don't want a lot for Christmas. There is
There's just one thing I need.
Leave Britney Spears alone right now.
What do we want? When do we want it?
Je suis fan, j'adore Clara Luceni, elle le sait. Je l'aime d'amour et je voulais lui rendre hommage avec ce t-shirt.
C'est pas l'amour, l'amour, c'est autre chose, moi, avec l'autre. C'est mon frère, c'est mon idole.
Grégorio Fusquillo, on l'entend hein, à travers tous ces extraits, on peut exprimer sa fanitude de façon très différente. Est-ce qu'il y a des degrés de fanitude ?
Absolument, il y a plusieurs degrés de fanitude. Il y a un degré qui est assez basique, c'est-à-dire que la personne commence à s'engager dans un parcours de fanitude, tout simplement pour reconnaître de nouvelles personnes ou pour apprendre de nouvelles choses qu'elle ne connaît pas. Parce que ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, la culture fan, c'est une culture qui est très diffusée et populaire. Donc, ça fait étiquette d'entrée dans la société. On a un sujet de discussion à table, par exemple.
Quand on est fan de séries, quand on est fan de manga, par exemple.
Absolument, surtout après la crise sanitaire, on est tous fans de séries, je crois. Et puis après, on a un niveau assez extrême. Et ça, ce niveau-là, on l'atteint lorsque, effectivement, la personne elle a traversé une crise identitaire grave sur plusieurs angles. Et donc, à ce niveau-là, la personne elle s'engage dans un rapport d'identification assez intense avec l'objet de sa fanitude. Ça peut être un idole, mais ça peut être aussi une marque au sens large. Donc, on a des fanatiques, entre guillemets, d'Apple, de Harley-Davidson, par exemple, oui. De Lego, les fans adultes de Lego. Qui passent leur journée à monter des Lego ou des gens qui vivent à proximité de Disney, par exemple à Paris, il y a beaucoup à Marne-la-Vallée, parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de cet univers où ils ont trouvé une zone de confort à leur vie.
Et alors ça, c'est vraiment la société de consommation et la société du marketing qui a permis, en tout cas qui a permis que ces mouvements-là se développent.
Absolument. Disons que l'idéologie consumériste aujourd'hui, elle a remplacé d'autres idéologies qui par le passé étaient aussi fortes que la consommation aujourd'hui, c'est-à-dire la religion d'un côté et la politique de l'autre. Oui. Aujourd'hui, on se tourne vers la consommation comme une nouvelle source de sens pour nos vies.
Alors vous parliez de sens et le pont est tout trouvé avec Magali qui nous a écrit sur franceinter.fr qui est fan de Christine and the Queens et elle nous dit j'ai été assez fan d'artistes et notamment donc d'une en particulier, Christine's. Après réflexion, à travers ses chansons et interviews, elle a su me rassurer sur certains sujets grâce à sa grande ouverture d'esprit et sa manière d'être, notamment sur les sujets queer. En plus d'une richesse artistique, certains artistes arrivent à apporter un réconfort pour son public et finir par devenir indirectement un modèle pour leur public. Léa, est-ce que c'est ça que vous avez ressenti aussi, c'est-à-dire qu'il y avait cette notion de réconfort auprès des fans de Dalida, d'avoir l'image d'une femme à la fois très humaine, à la fois aussi diva, mais qui était là pour les rassurer quelque part?
Je pense que dans le cas de Dalida, il y a un réconfort, mais qui passe par le malheur, en fait, qui passe par la souffrance, c'est-à-dire qu'elle
a dégagé tellement
de souffrance. Enfin, il y a quelque chose d'infiniment tragique dans sa vie, dans son rapport au suicide, dans la façon dont elle est morte d'ailleurs. Et elle avait une espèce de générosité dans la façon dont elle donnait cette souffrance, je pense, à son public qui la recevait. Donc oui, il y a certainement un réconfort, mais paradoxalement qui passait par le fait que on pouvait être malheureux, qu'on avait le droit d'avoir ce chagrin. Et ça, ils m'en ont tous beaucoup parlé. De quelque chose d'assez profond qui passait par le chagrin.
On est en ligne avec une auditrice. Bonjour Onyx.
Bonjour.
Vous êtes fan d'un groupe de K-pop, BTS. C'est un boys band coréen pour faire vite. Expliquez-nous comment vous avez découvert ce groupe.
Alors, déjà, je tiens à dire que j'ai eu une première vie de fan qui me poursuit et qui me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours, puisque je suis une grande fan de David Bowie.
D'accord.
Et je ne me retrouve pas vraiment dans les comportements excessifs, posters, merchandising, besoins identitaires. C'était vraiment fan de l'artiste en soi et une fascination de l'artiste en soi. Et eh bien, j'ai eu une adolescente qui a découvert le groupe BTS au moment où moi je me suis retrouvée en deuil de David Bowie en 2016 quand il est décédé, qui a été quelque chose de très douloureux. Et moi, j'ai été une fan adolescente qui ne pouvait pas tellement exprimer sa fanitude, fanatitude avec ses parents. On me demandait de baisser ma musique de sauvage. Voilà.
Donc, on l'a tous entendu cette phrase, vous inquiétez pas.
Donc, quand ma fille m'a fait découvrir BTS, j'ai voulu avoir un comportement qui soit radicalement différent de celui de mes parents. J'ai voulu être à l'écoute et elle m'a fait basculer. Elle m'a tellement fait basculer dans leur monde, dans leur univers, que je me suis même investie. Aujourd'hui, je suis investie depuis 2 ans dans la fanbase BTS France.
Oui.
Parce que j'avais envie de montrer que les fans de BTS n'étaient pas tels que beaucoup de médias les présentaient, des jeunes adolescentes hystériques prêtes à dépenser tout leur argent, mais qu'on pouvait avoir plus de 50 ans et être fan de BTS, des messages qu'ils transmettent, du bien qu'ils font à nos adolescents et aux adultes aussi, de leurs messages positifs et donc dans BTS France, en fait, on a beaucoup d'actions qui vont dans le sens de du message que transmet BTS.
Le groupe, d'accord.
Voilà, le groupe, en menant à bien des projets caritatifs, des projets civiques. Voilà, qui vont vraiment dans le sens du message que transmet BTS à travers ses musiques, à travers ses textes et à travers leur propre attitude.
Merci.
Vous savez qu'ils sont aussi
vous êtes intarissable.
Ah oui, non, mais je crois.
Ça y est, on a appuyé sur le bouton et là c'était parti. On va faire une émission entière sur BTS. Pardon, je vais vous couper.
Quand vous voulez,
je suis désolée.
Toute l'équipe de BTS France sera là. D'accord.
Merci beaucoup, Onyx, de nous avoir appelés. Merci infiniment et pardon de vous couper comme ça, mais c'est vrai qu'on a reçu énormément de messages. Olivier Guez, l'avènement des réseaux sociaux a quand même tout changé. Tout à coup, les stars, elles nous paraissent quand même beaucoup plus proches qu'il y a quelques années. Si on s'en tient aux sportifs, est-ce que vous avez l'impression que c'est une pression supplémentaire pour eux, toutes ces relations numériques?
Je pense que c'est une pression pour tout le monde et les sportifs, bien évidemment. C'est-à-dire qu'en fait, tout est calculé, tout est minuté, tout est mis en scène comme tout le reste. Et ils sont obligés, quelque part, d'animer une communauté, de faire vivre tous les gens qui les suivent, qui les adorent, de se mettre en scène. Et ça a accru, quelque part, effectivement, la présence presque au quotidien. Avant, j'étais gamin, quand j'étais adolescent, c'était via la presse, via la télévision, c'est des apparitions comme ça, momentanées, temporaires, relativement rares, alors que là, visiblement, il faut être omniprésent
ouais, bien sûr.
Pour entretenir.
Grégory...
Donc c'est une pression supplémentaire.
Oui, bien sûr. Grégorio Fusquillo, les comportements excessifs des fans conduisent parfois à des drames. Alors évidemment, on pense à l'assassinat de John Lennon ou à ce fan qui était rentré dans la maison de disques de Mylène Farmer et qui avait tué une des salariées. Le sociologue Stéphane Hugon évoque un rapport fusionnel d'amour et de haine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Quand on parle des fans,
dans le cas des idoles, oui, tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, le phénomène fan, il s'exprime au travers de ces deux sentiments. Donc, on parle notamment surtout par rapport aux réseaux sociaux des haters, donc oui. Ceux qui haïssent leur idole ou qui ont un sentiment de haine. En fait, pour avoir pour prendre un peu de recul par rapport au phénomène, on peut dire que le phénomène fan, à partir des années 80 jusqu'à présent, il a évolué au travers de 3 phases majeures. Une phase de résistance, les fans ne se reconnaissaient pas dans la société et donc ils se détachaient de la société. Une phase de participation dans les années 80 où les fans ont commencé à se réunir entre eux.
À monter les fan clubs, etc.
Des enclaves sociales où ils cultivaient de la contre-culture, littéralement. Et aujourd'hui, on est face à une phase d'activisme. C'est-à-dire que le fan, il utilise les messages de la marque dont on parlait tout à l'heure pour essayer de changer la société avec ces messages. Or, lorsque ça se passe bien, donc il y a un rapport d'amour avec la marque ou la star en question. Lorsque le rapport il se passe mal, oui. Donc c'est à ce moment-là que la relation de haine elle se déclenche.
Alors, on va passer à une autre période, celle des années 80. Moi, je n'avais aucun poster dans ma chambre, Grégorio. En revanche, je reconnais avoir essayé à plusieurs reprises de me maquiller et de me coiffer comme Madonna. Période années 80.
I made it through the wilderness. Somehow I made it through.
C'était en 1984, la star Madonna chantait Like a Virgin.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
Et si nos idoles étaient des dieux, les communautés de fans s'apparentent parfois à une religion, on va en parler, mais n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 pour nous raconter à quel point vous êtes fan d'un artiste ou d'un sportif. Je voulais vous lire le message de Gabriel qui est hyper amusant et qui nous dit « Quand j'étais jeune, à 10-11 ans, j'étais un peu la petite fille pas très intégrée, le nez toujours plongé dans les bouquins et dans un souci d'intégration et de faire comme les autres, j'avais tapissé ma chambre de posters, mais de personnes que je ne connaissais pas. Une fois, une amie m'a demandé le nom d'une des stars qu'elle ne connaissait pas et je me suis retrouvée bien embêtée à ne pas pouvoir lui répondre. Aujourd'hui, j'en rigole, tel est prix qu'il croyait prendre. C'est aussi ça, être fan. » Olivier Guèze, je vous propose d'écouter un son de quelques secondes. C'est lié à votre livre. Dites-moi, selon vous, de quoi il s'agit. Olivier Guèze, d'après vous?
Je ne comprends pas très bien, mais c'est Maradona, je pense.
Mais oui.
L'idole.
Et alors, écoutez, nous sommes en 2019 dans le stade Del Bosque en Argentine, voilà. Le club Gymnasia La Plata naviguait un peu dans les profondeurs du classement. Ils décident.
Ils ont pris Maradona comme entraîneur.
Exactement, ils prennent Maradona comme entraîneur. Vous étiez là?
Ouais, en fait, non, j'étais pas dans le stade, mais j'étais à Buenos Aires à ce moment-là, quand il a repris du service.
Alors, il avait 59 ans et il y avait 30 000 personnes dans le stade pour suivre cet entraînement. Alors, Olivier Guèze, je sais que vous êtes intarissable sur Maradona et on aurait pu consacrer, encore une fois, la totalité de l'émission à ce dieu du foot. Comment vous expliquez cette ferveur?
Parce que c'est un homme qui... D'abord, qui est plus qu'un joueur de football, qui a incarné un pays pendant un demi-siècle, qui a fait vivre les rêves de grandeur à tout un pays, à tout un peuple, une revanche sur son propre sort, qui a fait prendre à l'Argentine une revanche comme nation, par exemple, oui, sur l'Angleterre, qui a fait de l'Argentine, enfin, qui a placé l'Argentine sur la carte du monde. L'un des premiers, d'autres héros bien évidemment dans l'histoire argentine, mais Maradona a incarné quelque part la grandeur de l'Argentine, aussi sa décadence. Je pense qu'il y a très 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 peu de gens, hein, très très peu de personnalités qui à un tel point ont su incarner l'histoire d'une nation pendant un demi-siècle. Et puis il y a évidemment le footballeur exceptionnel qui a fait rêver tout un pays, qui est absolument dingue de football et qui est devenu moderne grâce au football au XXe siècle, à savoir l'Argentine. Donc ça, ça va très très loin, Maradona.
Gregorio, je vais y arriver, Gregorio Fuschio, mais j'ai pas envie de vous bien prononcer votre prénom, j'aurais dit, vous voyez, pourtant je suis fan de vous. Hein. Quand je parle de ferveur religieuse, j'exagère pas du tout en fait. Il y a vraiment tous les signes d'une religion quand on parle de Maradona et des fans qui sont autour de lui.
Oui,
il y a même une religion Maradona.
La Iglesia Maradoniana, effectivement. En fait, l'une des explications qu'on pourrait apporter pour essayer de comprendre un peu la dimension religieuse du phénomène Maradona, c'est le fait que Maradona, effectivement, il incarne un mythe biblique qui est celui de David et Goliath. Donc du faible qui gagne vis-à-vis du fort, du dominé qui prend sa revanche sur le dominant. Et ça, c'est vrai dans le cas de l'Argentine, mais aussi dans le cas de Naples, du club de Naples. Les Napolitains en Italie du Sud, ce sont les dominés dans l'Italie qui est dominée par le Nord, riche et fort. Donc, ce qui est intéressant dans le cas de Maradona, c'est que lui, il a permis aux Argentins et aux Napolitains de gagner sur le terrain de la moralité, donc de gagner en dignité morale face à des superpuissances économiques et culturelles. Et c'est aussi le paradoxe d'un personnage qui, lui-même, il n'avait rien de moral.
Bien sûr, on est bien d'accord.
Voilà. Et donc, voilà qui fait un peu tout l'intérêt du cas Maradona aujourd'hui.
Mais alors, d'ailleurs, Léa Van Stein, les failles, les blessures de Maradona ont participé à la construction de son mythe. Est-ce que l'idolâtrie autour de Dalida, elle repose aussi là-dessus? C'est ce que vous disiez un peu tout à l'heure, mais sur le fait que c'était une femme comme tout le monde avec ses failles.
Oui, je pense, et puis même peut-être plus que tout le monde. Donc, je pense que c'est cette dimension d'excès qui déchaîne les passions. Et puis encore une fois, la façon dont elle le donnait, dont elle le montrait, jusqu'à ce qu'elle se donne tellement qu'elle finisse par se tuer. Donc,
ouais.
Il y a quelque chose vraiment de profondément tragique qui, de ce point de vue-là, oui, peut-être rejoint des chemins religieux, mais c'est je pense que c'est moins je l'ai pas ressenti moi
oui,
ça
oui.
Ce côté ni même sectaire.
C'est plus festif, j'ai l'impression. En tout
Exactement.
Cas, en écoutant
ouais.
votre podcast, on a l'impression que c'est beaucoup plus festif comme communauté.
Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est aussi le monde de la nuit,
oui.
des paillettes. C'est justement ce mélange entre les paillettes, le disco et la tragédie. C'est ça qui est assez fascinant chez elle, en fait.
Olivier Guez, vous vouliez réagir ?
Oui, non, je voulais raconter une scène que j'ai vécue pendant la Coupe du Monde 2018. C'est le premier match de l'Argentine contre l'Islande. Il y avait une immense majorité de supporters argentins qui chantaient comme ils le font toujours. Et puis tout d'un coup, il y a un silence. Et moi, je comprends pas très bien, je suis dans la tribune de presse. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de rumeur qui enfle. Et là apparaît Dieu au balcon. C'est-à-dire que Maradona sort de sa loge, il a énorme cigare au bec, alors qu'il est interdit par la FIFA de fumer quoi que ce soit dans un stade. Et là, mais il faut voir la ferveur du public argentin et globalement tous les spectateurs. C'est-à-dire que véritablement, c'est Dieu apparaît au balcon.
Oui.
Je n'avais jamais vu ça. Et j'ai senti une telle émotion dans le stade. J'ai fait beaucoup, beaucoup de stades dans ma vie, mais là, c'était absolument exceptionnel. Et c'était vraiment l'incarnation quelque part de la divinité qui apparaissait. Et ce qui était intéressant, c'est que vous aviez Messi sur le terrain qui avait l'air d'un junior à côté, qui n'existait pas à côté de Maradona.
Oui, mais vous dites, d'ailleurs, je sais que voilà, il y a l'époque Maradona dans votre cœur, Olivier Guez, et puis les footballeurs d'aujourd'hui, vous parlez beaucoup d'Mbappé souvent, mais de Messi par exemple, pour vous, ils atteindront jamais cette popularité et la ferveur qu'a pu susciter Maradona.
Mais je pense qu'un enfant de 8 ans, de 10 ans, dans 30 ans, parlera de Mbappé ou de Messi, probablement avec la même émotion que moi je peux parler de Maradona. Je pense que les choses sont différentes, je pense que les émotions évoluent. Moi je pourrais évidemment jamais ressentir la même chose vis-à-vis d'un Messi ou d'un Mbappé, où les communications
Bien
sont
sûr.
Totalement contrôlées, où cette mise en scène permanente. Ce qui était intéressant avec Maradona, c'est que c'était vraiment un être de chair et de sang. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bêtises, c'est quelqu'un qui a incarné le génie. Il y avait quelque chose de très humain, quelque part.
Ouais.
Il y avait une idée de comédie dramatique, quelque part, qui est l'existence. Les joueurs d'aujourd'hui, eux, contrôlent tout. Je ne sais pas, est-ce que Mbappé a des états d'âme, est-ce qu'il fait des bêtises, j'en sais rien, quelque part, je le souhaite. Mais on n'en saura jamais rien. On attendra 10 ans, 20 ans pour le savoir. Alors que Maradona, c'était le cirque, le show, le théâtre permanent, quasiment au quotidien. Mais ça l'a tué aussi. Hein.
Bien sûr, bien sûr.
Et là, on s'approche un peu de Dalida, ou de toutes ces idoles qui, à un moment, Elvis, se font littéralement avaler par leur popularité. Ça les dépasse totalement. Ils ne peuvent plus vivre. On parlait de Maradona à Naples. Ils ne pouvaient pas mettre un pied dehors.
Oui.
Était pourchassé en permanence justement par les fans, par les photographes, et à un moment on dit genre, c'est invivable.
Ouais. Grégorio Fuschi, on a l'impression que cette période un peu effectivement, on a ces foules immenses qui viennent entourer soit un groupe, soit une star. Aujourd'hui, dans le temps, c'est beaucoup plus réduit. C'est-à-dire que le phénomène qu'on a pu vivre, par exemple, avec Tokyo Hotel, ça a duré quelques années, et puis tout d'un coup, ça s'évapore, il n'y a plus rien. Est-ce que vous avez l'impression que c'est aussi cette société de consommation et de marketing qui amène à ça, et qui fait qu'on n'aura plus les Maradona, les Dalida, les Claude François, qui, eux, s'étalent dans le temps?
Je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. Tout d'abord, bon, il y a l'effet des réseaux sociaux, donc
oui.
on n'a pas forcément besoin de se voir physiquement. Puis effectivement, oui, l'un des traits des sociétés de consommation, c'est l'éphémère.
Et oui.
Donc les communautés, elles se font, elles se défont assez soudainement. Et puis après, il y a une dernière dimension, c'est-à-dire que on parlait de dimension religieuse des fans aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a certaines idoles, certaines célébrités qui effectivement évoluent dans le temps, et donc ils font évoluer le phénomène du fandom. Donc, si on prend le cas de Maradona, oui, il n'y a plus des foules qui se réunissent pour Maradona parce qu'il n'est plus là.
Mais ça se poursuit.
Mais il y a d'autres manifestations du phénomène. Et je fais juste un petit exemple à Naples, par exemple. Il y a un bar qui s'appelle le Bar Nilo. Il a le cheveu miraculeux de Maradona, donc une relique, qui est dans un hôtel tout petit. Et il y a la foule de Napolitains et de touristes qui vont voir
cette relique,
effectivement, et prendre des photos. Voilà.
On a reçu beaucoup de messages justement sur cette idée que la passion se prolongeait au fil des années. Laurence, par exemple, qui nous dit « J'ai 50 ans et j'ai gardé une place dans mon cœur pour Jean-Jacques Goldman. À l'adolescence, j'étais fan alors que c'était un peu honteux au lycée. Jeune adulte, j'ai continué de le suivre en tournée. Et aujourd'hui, j'éprouve une immense tendresse pour ces années d'insouciance qui m'ont permis de m'émanciper. » Et on a reçu cet autre message. Écoutez bien.
Youssef, 26 ans, fan de Lady Gaga, ou en tout cas du moins durant mes années d'adolescent. Je dois avouer qu'elle a bien refait mes playlists et qu'elle a bien tapé dans mes oreilles durant toutes ces années. J'ai eu l'occasion de la rencontrer par deux fois. C'était une personne extrêmement gentille, extrêmement sympathique, qui a pris le temps de signer des autographes et de prendre des photos. Donc ça, c'était quand même assez cool. Et puis bon, belle communauté aussi et de belles rencontres à la fin. Et je dis anciennement fan, mais on reste toujours un petit peu fan de ses idoles de jeunesse. Donc c'était une belle expérience en tout cas.
Voilà, on reste un peu fidèle à toutes ces idoles qu'on a eues quand on était adolescent. J'ai une dernière question pour vous trois. Olivier Guez, si vous deviez être fan d'un footballeur ou d'une footballeuse aujourd'hui, ce serait qui ?
Ouais, ça, c'est compliqué.
Imaginez que vous soyez adolescent et que vous ayez envie de mettre un poster.
j'essaye régulièrement. C'est pas simple.
Vous continuez à aimer Maradona.
Oui, je veux dire, non, mais par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement, il y a une évolution des fans, mais tout simplement parce qu'en fait, c'est le temps qui fait le tri.
Bien sûr.
Si vous mettez un enfant devant une vidéo de Maradona ou de Pelé, il va être ébahi. Tokyo Hotel, je suis pas sûr qu'on atteigne le même niveau de génie que John Lennon ou Maradona ou même Dalida dans une certaine mesure.
C'est fort possible.
Et c'est pas simple de dire. Par rapport à votre dernière question là, de qui je pourrais être fan aujourd'hui, un poster, je pense que ce qui fait, en tout cas à mes yeux, le personnage absolument charismatique, c'est pas seulement la performance, si on reste au niveau du football, c'est aussi l'humain,
bien sûr,
la personnalité. Et comme aujourd'hui tout ça est extrêmement contrôlé et que finalement c'est très peu de choses de tous ces joueurs qui sont vraiment, c'est pour ça que moi ça m'est difficile. Après, des grands joueurs, il y en a plein, que ce soit Messi, Ronaldo, Mbappé, enfin il y en a plein. Qui il y a derrière, j'en sais rien. Et peut-être Ronaldo, quelque part.
Ah.
J'ai toujours été fasciné par Ronaldo. J'aimerais comprendre comment on gère la vie, comment Ronaldo gère sa vie. J'adorerais passer deux semaines avec lui et comprendre exactement ce qu'est la vie au quotidien de Cristiano Ronaldo.
Alors, on reste sur Ronaldo. Je vous parle de deux autres stars idolâtrées. Henri est une star du stand-up. Il vit en couple avec Anne. C'est une célèbre cantatrice. Couple idolâtré, donc, est incarné à l'écran par Adam Driver et Marion Cotillard dans le film Annette. Avec le groupe Sparks, ils chantent So Way We Start.
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May we start, may we start, may we start.
you should know. The offers are here, so let's not show disdain. The offers are here and there.
Start par le groupe Sparks. Merci infiniment à vous trois, nos trois invités pour cette émission Très Fan 2. Olivier Guez, merci de nous avoir accordé du temps. Je recommande grandement la lecture de votre livre, Une passion absurde et dévorante, écrit sur le football aux éditions de l'Observatoire. Il y a de la poésie dans vos mots et ce qu'il faut de nostalgie pour nous émouvoir. Merci infiniment Léa Vanstein. Merci Léa Vanstein d'avoir été avec nous. Merci. Votre podcast Dalida et moi est disponible sur le site arteradio.com. Et un grand merci Grégorio Fusquillo, vous êtes venu de Marseille pour nous. Et je rappelle que vous êtes professeur en marketing et sociologie de la consommation à Kedge Business School. Merci Grégorio.
Merci beaucoup.
Comme tous les jours, je vous propose de prolonger ce sujet. Ce matin, j'aimerais finir avec les mots d'Edgar Morin. En 1957, il publiait la première édition de son essai Les Stars, analyse très juste du star system, des relations entre les acteurs et le public, de leur mystification. Et puis, il évoque le suicide de Marilyn Monroe. Il parle de la vanité, de tout succès, de la solitude, de la femme aimée, mal aimée, du vide sous l'intensité, de l'aspiration irréalisée et, je le cite, sous le plus éclatant sourire, la mort. Cet essai est une très grande beauté, je vous le recommande. Un grand merci à toute l'équipe de l'été comme jamais dont je suis fan, Juliette Medevielle à la réalisation, Florian Dorémini à la technique, Margot Pajana Massardier et Marie-Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. Rendez-vous lundi à 9h sur France Inter avec un thème qui, je l'espère, vous inspirera, comment s'évader avec l'art. Mais en attendant, place à la philosophie avec Charles Pépin. Bonjour Charles, qui vous accompagne ce matin ?
Bonjour, aujourd'hui je reçois Bruno Verjus qui est à la fois chef, cuisinier, érudit et nous essaierons de savoir si nourrir est un art.